Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous laisser avec l'incroyable Colette, nous avons un message pour vous. Nous sommes à la recherche de mamie pour nos prochains épisodes. Nous cherchons une femme issue de l'immigration, une femme qui aime les femmes et une femme qui a fait de la politique. Si vous avez dans votre entourage une femme née avant les années 50 qui aurait envie de nous raconter sa vie, écrivez-nous.
Marion, c'est moi. Et moi, c'est Héloïse. Bonjour.
Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
Ressemblez à mes parents.
Ah non, pas du tout.
Aucune femme ne recourt au détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Dominex, libère la femme. Libère la femme. Libère la femme.
Vous aviez 20 ans.
Bah, qui on va fréquenter? Les grands-mères?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion, et aujourd'hui, nous allons chez Colette.
Non, moi je regrette vraiment, mais rien du tout. Rien, rien. Dans ma vie, je regrette rien.
Est-ce que vous voulez qu'on enlève nos chaussures ?
Oh ben c'est ça, puis quoi d'autre ?
Colette vit dans le 17e arrondissement de Paris, au fond d'une petite allée fleurie. Son appartement est décoré avec soin, et très vite, on remarque son goût pour l'art contemporain. Elle nous accueille, perchée en haut de son 4e étage, sans ascenseur, avec vigueur. On sent tout de suite que Colette ne mâche pas ses mots, et que ce thé va être passionnant.
Je vous prépare du thé.
C'est dans 42 d'ailleurs, le 6 mars, c'est pas beaucoup de temps. Hein. Ah, écoutez, c'est très simple, moi, je suis née dans les Deux-Sèvres, et les Deux-Sèvres, je suis après, on ne parlait pas de gauche et de droite, on parlait de catholiques et de protestants. Papa était protestant, il restait parpaillot toute sa vie, hein, chef de famille, et maman catholique. Et on allait faire les courses à 6-7 km avec un grand mulet des Deux-Sèvres, et moi j'adorais ça, cette carriole, dans une carriole, on allait avec un mulet. Et à cette époque-ci, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai jamais fumé de ma vie. Là-bas, il y avait une exploitation où ils avaient des agréments pour faire pousser du tabac. Alors, nous, les enfants, nous n'avons pas cueilli le tabac. Mais par contre, le soir, dans un grand hangar, nous trions les feuilles de tabac. Ensuite, on avait une grande aiguille avec de la ficelle. On enfilait les feuilles de tabac, toutes dimensions les mêmes, hein, et grand-père les suspendait au plafond pour les faire sécher. Eh bien, les filles, vous ne savez pas ce que c'est que l'odeur du tabac froid. Je vous garantis que ça vous aura empêché de fumer toute votre vie, tellement ça vous colle à la peau. Là, les cigarettes, niette. Et ce hangar n'était pas loin des petits cabinets qui étaient quand même au fond du jardin, qu'il fallait qu'on traverse un tout petit chemin pour aller au cabinet le soir. C'était terrible. Parce que moi, j'ai connu ça, il n'y avait pas d'eau. Les pompes à piston, comme ça, on allait chercher l'eau à puits. Et puis, on se baignait dans un baquet en bois, un demi-barrique, si vous voulez. Et alors, les enfants à tour de rôle passaient, une fois par semaine, hein. Les enfants à tour de rôle passaient, on se lavait le minou tous les jours dans une petite cuvette, hein, comme, c'est pas grave, on sentait pas mauvais. Hein. Mais quand on se marrait parce qu'on adorait ça. Le premier passait dans le baquet, on enlevait la petite crasse au-dessus, on mettait l'eau chaude. Le second passait dans le baquet, voilà. C'était le jour du bain, c'était le soir du bain, le soir. C'était jamais le jour, c'était le soir du bain. Voilà. Bon, on n'a pas connu de chauffage, on a connu les briques entourées d'un vieux chiffon, on a trouvé des bouillottes. Mais ça, c'est tout des trucs mais extraordinaires, voyez. Et le fait d'avoir eu toute sa vie un cadre. Le cadre n'était pas du tout tartatiner dans un truc, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. On avait un grand cadre, mais on ne dépassait pas ce cadre. Moi, papa, beaucoup plus tard, il a vu du bordel dans une chambre, il a tout foutu par la fenêtre. Et après, ranger les filles, qu'est-ce que tu dis ? C'est logique. Tout ça est logique. Nous, on était élevés tous avec le même. Papa était au bout de la table, il ne se levait pas. Et puis, il fallait, c'est pas la peine qu'il demande le sel ou le poivre. Il fallait bien que nous voyions qu'il manquait le sel ou le poivre. Et quand vous vous levez, vous ne partez pas les mains vides. Bien sûr. Moi, la guerre, je n'ai aucun souvenir. Aucun souvenir. Donc, on n'a jamais eu faim, nous. Jamais. Moi, je n'aime pas la viande rouge. Logique. Nous n'achetions jamais de viande. On vivait en autarcie. Moi, j'ai mangé du gruyère, je ne sais pas, j'avais 21 ans. Il y avait de la suze pour papa, et papa buvait du vin rouge. Et à 10 heures, il mettait un œuf qu'il battait avec un petit peu d'huile et du vinaigre, et il avalait ça. On était pas malheureux. On faisait des crêpes, les goûts d'enfant. Moi, j'adore le tapioca, j'adore le riz au lait. Du riz au lait, c'est-à-dire du lait avec du riz. Très liquide. J'adorais ça, 2 grains de chicorée, et alors, le pain perdu, n'expliquez pas, vous avez vu qu'on l'a dans les restaurants avec la brioche, que ça veut dire, c'est du pain perdu. On avait des grosses miches de pain, vraiment des grosses miches de pain qui faisaient 20 cm. Parce qu'à la campagne, vous savez, commençait, mange l'ancien, m'en prends le nouveau. Donc moi j'ai bouffé que du pain vieux, que du pain rassis, bien sûr, parce qu'il fallait toujours finir le dernier, horrible. Alors il y a des choses comme ça, je me dis, le jour où j'ai de l'argent, je mange du pain frais.
Mais du coup, vous alliez à l'école ?
Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah ben écoutez, en Sologne, l'école, oui. Hein. La propriété est à 5 km. Nous allions en vélo. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous allions à l'école en vélo. Dans les chemins sablonneux de Sologne. Hein. C'était pas du goudron. Hein. Moi, je suis une famille très, 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 très pauvre. Mais pas malheureuse. Hein. Très, très pauvre. Mais bon. Et alors, quoi, on détricotait pour mélanger de laine, on tricotait un pull à l'autre, on faisait une jupe pour refaire l'autre. Je me souviens que d'une fois, quand même, j'avais un peu honte parce que nos imperméables, qu'on passait à ma sœur aînée à moi, n'étaient non doublés avec. L'intérieur était caoutchouteux. Et ça collait. Ça me fait rire. Parce que ça m'a. J'ai toujours dit, j'aurais préféré être une fille de paysan, de ouvrier. Pour la seule et unique raison que si vous êtes une fille d'ouvrier, vous avez une grande probabilité d'être dans une ville ou un village où vous pouvez faire des choses. Parce qu'apprendre à nager à 21 ans, n'empêche qu'on est très dépendant avant. Et que quand je suis allée faire une colonie de vacances, mon père avait accepté que je le fasse, j'ai dit au mec, on était à Arcachon, j'ai dit au mec, attends, tu me demandes de surveiller des gens là, des mômes dans la mer, je ne sais pas nager, tu as une demi-journée pour me prendre à nager. Hein. Oui, il n'y a pas de solution, j'ai appris en une demi-journée. Hein.
Et ce décalage entre du coup les filles de la ville et vous de la campagne, c'était comment ? Vous aviez des copines quand même ?
Non, aucune copine. Non, personne ne venait à la maison. Et nous, on restait pas un soir à Angoulême chez des amis. Hein. Il faut quand même que vous sachiez que votre rang social vous marque toute votre vie. Moi, j'ai eu des amants, ils m'auraient sûrement jamais épousée, hein, et je le savais tout de suite. Je pense qu'elle a pas beaucoup changé ça depuis. Ce qu'elle nous racontait de ce qu'elle faisait, nous étions incapables. Hein, parce que nous, on n'avait pas de jouets, mais on jouait tout le temps. On jouait avec des feuilles, des brindilles qu'on accrochait, on faisait des guirlandes, on faisait 1000 trucs, quoi. D'ailleurs, je me souviens, mon frère, on gardait des vaches, et puis on était en train de faire des grandes guirlandes avec ces petites brindilles, on faisait des espèces de cabanes comme ça, parce que garder des vaches, ça durait quand même 3 heures. Hein. Puis on rentre, rien que de regarder le troupeau, papa dit, il en manque une. Il en manquait une, effectivement. Elle avait vêlé dans un coin et nous, on n'avait pas surveillé les vaches du tout, quoi. Si on s'est pris une branlée, là aussi. Hein. Moi, j'ai aucun sentiment. On sait maintenant qu'on était pauvres, mais aucun sentiment de pauvreté, quoi. C'était plein d'amour. Voilà, je sais pas, on avait une orange pour Noël, ben alors quoi, c'était pas grave. Hein. Moi, j'aime pas les huiles, évidemment. J'en ai goûté 3, je sais pas quand. Je me vois jamais malheureuse, quoi. On n'était pas malheureux. On se contentait probablement de peu, mais on savait très peu ce que les autres avaient, parce que je ne suis jamais allée chez une amie à Angoulême voir comment était son appartement, comment était... Jamais, donc c'est pas grave. Hein. Mais on avait la radio, moi je me souviens, j'avais demandé à papa, parce qu'on travaillait dans les champs beaucoup, hein. On ramassait le maïs, on ramassait les patates, on ramassait le foin, Et qu'on ne m'explique pas que les moissons, c'est rigolo. Hein. Quand vous le faites pour bosser 8 heures par jour, c'est pas du tout rigolo, je vous le dis. Mais on le faisait parce que c'est la survie du groupe. Quoi. Personne ne râlait, personne ne disait ni un jeu pas. Hein. On ne commentait pas. C'est fou parce qu'on disait on y va, c'est le jour de ça. On n'avait pas de commentaires à faire. Puis ça n'aurait pas été le bienvenu. Quoi. Qu'est-ce que vous dites, si vous ramassez pas les patates, vous avez bouffé quoi le soir ? Enfin, le lendemain ou dans l'hiver ?
Du coup, quand est-ce que vous avez arrêté d'aller à l'école ? Vous n'avez pas passé le bac, du coup ?
Ah, pas du tout. L'école était obligatoire à 14 ans. Je suis arrêtée à 14 ans et heureusement, j'ai mon BEPC, moi.
Et de 14 à 18, vous avez fait quoi ?
Ben, des champs. On n'a fait que ça, bosser dans les champs, cirer le parquet, passer la paille de fer, tout, quoi.
Vous auriez voulu continuer les
Ah, ben oui, je me suis battue pour être militaire. Je voulais être AFAT, donc militaire de carrière. Et là, ils vous faisaient passer faire des études et vous rendiez 3 ans à l'État. Enfin bon, pas voulu. Donc ben, on a travaillé au champ, travaillé dans les champs. Mon Dieu, ma dernière sœur. On a su que maman attendait un bébé un mois et demi avant qu'elle l'accouche, hein, parce qu'elle l'avait un peu caché. Et ils ont toujours des tabliers, des blouses de cuisine. J'avais 16 ans, hein, 16 ans et demi. Et c'était le hasard. Hein, c'était... Et d'ailleurs, elle a accouché, on était en Haute-Vienne, elle a accouché chez elle, à la maison.
Mais donc, ça veut dire qu'en fait, elle a d'abord eu 5 enfants.
Oui, et puis ce 6e. Et moi, je me disais, mais comment ils ont pu faire l'amour pour faire un enfant ? Mais comment ? Non, mais comment, quoi ? Donc, vous imaginez que ma petite sœur est née en 58, maman était née en 20, elle avait 38 ans. Moi, mais ma vie sexuelle était au sommet de tout à 38 ans, quoi. Et à l'époque, je me disais, mais comment ils ont pu faire ça ? C'est pas possible. Les enfants, on est terribles. Terribles. Je me disais, mais comment ils ont pu oser, quoi ? Mais comment, quoi ? C'était incroyable. On est vraiment des saletés. Hein, c'est... Papa, qui était un patriarche, avait dit, mes filles ne partiront que pour se marier.
Du coup, votre frère, lui, il n'était pas obligé de se marier ?
Non, mon frère, il pouvait faire ce qu'il voulait. Faire des études, s'il avait voulu, il n'a pas voulu. Donc je me suis dit, bon, je vais pas rentrer en guerre, parce que j'aurais voulu qu'il me paye le voyage pour aller en Angleterre, mais ça, si c'est payé pour moi, il fallait aussi payer pour les autres, donc il a dit non. Je voulais rentrer comme militaire de carrière, ça m'aurait permis de passer le bac, mais il a dit non, pas d'enfant fonctionnaire. Donc à 21 ans et 3 jours, je suis partie. Donc,
et jusqu'à 21 ans, vous avez fait quoi ?
J'ai travaillé à la poste, après à la banque. À 18 ans, j'ai demandé à mon père de travailler, donc il a accepté. Mais à la poste, je travaillais aussi à la maison. On travaillait souvent le samedi. Hein. Le dimanche, non. Mais le samedi, on travaillait à la propriété. On faisait le ménage, on faisait tout. Quoi. Comment, il n'y a pas de machine à laver le linge. Il fallait faire tout. Quoi. Donc c'est...
Et donc, à 18 ans, vous avez commencé à travailler ?
Oui, il a accepté. Papa a accepté. Mais il fallait lui parler. Hein. Il fallait oser lui demander. Hein.
Et vous n'avez pas préféré vous marier ?
Ah mais non, mais le mec ne m'intéressait pas du tout, du tout, du tout. Jusqu'à 23 ans, hein, moi. Ah non, il voulait me marier, il a marié ma sœur aînée, il voulait me marier avec un monsieur qui avait une imprimerie. Je dis, mais attends, tu rigoles ? Je vois tous les jours à la banque ce mec, il me dit à peine bonjour, je vois tous les soirs, je portais le courrier de la banque à la poste, il portait le courrier de sa boutique à la poste, il me dit à peine bonjour, tu veux que j'épouse ce Gugus là ? Mais jamais de la vie quoi, je veux.
Et mon premier job, je m'appelais Rochechouart 13, parce que j'étais en fichy, si vous voulez, 22 années, enfin 22 années, oh, j'étais la plus rapide. Hein. Mais ça a duré quand même qu'un an, parce que je me suis dit, là, t'es déjà pas instruite, alors là, tu vas finir idiote totalement. Rochechouart 13, bonjour. Je faisais ça toute la journée, je faisais des factions, 7h midi, 7h 9h. 7h 9h dans le noir et tout ça, à bicyclette, avec mes 5 km.
C'était les amphichistes du téléphone, on passait des communications téléphoniques. C'est une sous-préfecture au Chechouart en Haute-Vienne. On passait toutes les communications téléphoniques. Il fallait aller très, 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 très vite. Et 7h midi, c'était très difficile, cette action. On avait des fiches, on avait une petite lumière qui s'allumait, il y avait quelqu'un qui vous appelait. On enfichait sous cette lumière, on avait donc la personne qui appelait, qui vous disait « Bonjour madame, je voudrais le 22 à Nières, je veux le 52 à Angoulême, je veux je sais pas quoi. » Parce que c'était des chiffres, deux chiffres. Et nous, on passait, on avait un truc de téléphone, enfin une roulette là, et on passait la communication. Ça se passait ça se passait comme ça manuellement, ça se passait pas du tout. C'était que des gens physiques, des personnes physiques qui faisaient le boulot de passer les communications, hein. La nuit comme le jour.
Et ça correspond à quoi alors le 13, le 22
ben parce que chacun de nous avait, il y avait Rochechouart 10, chacun de nous se présentait. Donc s'il y avait des réclamations, si on n'était pas assez rapide, si on n'était pas sympa, si on n'était pas poli, si on n'était pas... elle disait Rochechouart 13, vraiment pas bien. Il y avait Rochechouart 10, il y avait Rochechouart 14. Moi j'étais Rochechouart 13, parce que j'étais la 13e à avoir ce boulot, quoi. Et après je me suis dit non, ça va pas aller, il faut trouver autre chose. Et j'ai trouvé la banque de 19 ans, 21 ans, 2 ans, à la banque régionale.
Et vous faisiez quoi exactement à la banque ?
On était au guichet, on payait les chèques, on donnait les chéquiers, on découpait, vous avez vu ces titres anciens où il y avait des petits coupons, on découpait les petits coupons qui avaient une échéance, on les payait en espèces, on passait des écritures, les gens payaient les fournisseurs avec des grands billets à ordre, ça n'existe plus maintenant, qu'on avait à l'échéance, qu'on passait au débit du compte, on faisait payer les gens. Pour les autres qui en avaient, on les escomptait, on les mettait au crédit de leur compte, mais on faisait ça. Il y avait deux banques, le Crédit Agricole et la Banque Tarnot, où j'étais, et on avait tout le monde, c'est-à-dire tous les 50 km autour venaient ici, quoi. Bon, on travaillait beaucoup, beaucoup, mais j'ai appris tout, parce qu'on faisait tout. On n'était pas du tout avec un secteur comme aujourd'hui, hein. Moi, j'ai appris la banque comme ça, j'ai appris le droit de la banque comme ça.
Et vous vouliez travailler ?
Ah oui, je voulais travailler. Je voulais gagner ma croûte. Mais au début, bah, on rapportait l'argent à la banque, à la maison. Puis après, bah, on en gardait un petit peu. Puis voilà. Moi, le premier cadeau, c'est pour acheter un aspirateur. Et maman, avec qui je n'ai pas eu trop de rapports comme ça, je préférais papa qui avait un goût certain. Quand j'ai acheté un tissu, c'était avec papa que j'allais. Mais maman me dit, quand je lui offre cet aspirateur, oh, c'est bien. C'était les trois quarts du salaire, c'est bien. D'ailleurs, je dois vous dire qu'en 1963, le Crédit Agricole chez qui je voulais aller travailler n'embauchait aucune femme dans leurs agences en 1963. Vous pouviez travailler à la soute, au siège social à Limoges, mais pas en agence. 63, pas une femme dans une agence. Absolument. Mais moi, je veux aller compte des dames avec l'autorisation des maris, hein. Mais les femmes mariées, elles n'ouvraient pas un compte toutes seules. Hein. Et c'est quand elles avaient eu une actrice de son mari, elles prenaient le prénom du mari. C'est Madame Roland Gervais. Votre prénom avait déjà disparu. Enfin, si vous étiez mariée, vous ne preniez que le nom de votre mari. Hein. Quand on me dit le nom de jeune fille, mais de quoi vous parlez ? Mon nom. Pas de vie, c'est mon nom. C'est pas un nom de jeune fille. J'ai un nom, un seul nom, quoi. Que vous rajoutiez le nom de mari après vous, ok, mais... Mais quand même, beaucoup de femmes prennent le nom de leur mari tout de suite. Mais même encore, hein, moi je vois chez Fortis, il y avait une jeune femme, elle a laissé son nom, qui était un très joli nom, pour prendre le nom de son mari, je trouve ça... Bon, elle est mariée, c'est plus simple, a-t-elle dit, plus simple. Curieux, quoi, je veux dire. C'est... Ah non, les femmes, c'était dur à l'époque. Hein. Enfin, c'était dur, je sais pas si c'était malheureux, je crois pas qu'elles étaient malheureuses. Maman était quelqu'un qui ne décrochait pas le téléphone, par exemple. Les femmes, il y avait plein de femmes comme ça qui n'avaient pas leur compte à elles, qui étaient à travers l'époux. Hein. Moi, je ne suis pas du tout féministe. Alors là, féministe, non, non. Bon, pour rien au monde, j'aurais voulu rester dans ce bled, ni la campagne. C'est pas que je n'ai pas aimé, mais... Aller passer un week-end à la campagne, ok. Moi, je disais aux gens en 68, là, je vais à la campagne, je disais, mes potes, allez-y, passez-y deux hivers et vivez à la campagne de la campagne. Parce que quand vous allez un week-end, que vous vivez d'autres choses à la campagne, c'est OK. Hein. Et encore, moi, j'ai mon fiancé qui a sa maison qui est à la campagne. À part les corbeaux et le téléphone, mais qu'est-ce qui vous ravitaille, hein ? Rochechouart, c'était à 5 km. J'avais dit, je vais prendre un petit appartement à Rochechouart. Jamais de la vie. Donc, s'il ne veut pas à 19 ans ou à 20 ans, même si je franchis le pas à 21 ans et demi, il va... Donc, je n'allais pas rester à Rochechouart. Je me suis dit, ben, je m'en vais à Paris. À Paris, je suis montée avec ma petite deux chevaux, hein, réellement, ma deux chevaux.
La jeune Colette quittant sa campagne dans sa deux chevaux pour arriver à Paris, c'est une vraie image de film ou de roman d'apprentissage. Durant la première heure de discussion, elle nous emporte avec elle dans sa campagne des années 50, si différente de tout ce que nous connaissons. Nous buvons ses paroles, en essayant de ne pas nous étouffer car le rythme est soutenu. Colette est aussi vive et dynamique que le son de sa voix.
Vous savez, en 63, le monde m'appartenait. Surtout le premier job que j'ai fait à la Lloyds Bank, moi, en 3 heures, j'avais déjà fini tout le boulot que les gens faisaient en 8 heures. Donc, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Alors, les gens me disaient, je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais taisez-vous, on va croire qu'on fait rien. Je dis, on va croire qu'on fait rien. Vous, faites rien, que je vous dise, moi. Mais les patrons ont toujours vu, hein, parce que très vite, j'ai fait tout le tour de la banque, de la Lloyds. J'ai appris tous les métiers, tous les départements. Puis, je me suis dit, après, je ne suis pas anglais, je ne parle pas l'anglais. Alors, il faut en aller de cette banque. J'ai trouvé une autre banque, le Crédit Chimique, où le patron a vu que je travaillais beaucoup, beaucoup. Ils ont ouvert une petite agence à la Défense. La vie est toujours une espèce de chemin que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Le patron au mois d'août change. Il y en a un qui est là et qui me dit, mais vous gagnez combien, Colette? Alors je lui donne, combien j'ai gagné, je ne sais plus combien je gagnais. Que ça pour ce que vous faites? Attends, moi, demain, je vous trouve un job, moi. Il m'a trouvé un job le lendemain, et c'était la Banque de la Cité. La Banque de la Cité, c'était pour créer ouvrir une petite agence sous François Ier. Et là, j'arrive dans cette agence, on me donne un client, Armédia. Vous savez ce que c'est Armédia? Le plus grand agent de comédien européen à l'époque, en 69, parce que j'étais en octobre 69.
Et donc les premières années à Paris, c'était comment? Parce que donc, vous êtes arrivée
horrible.
À Paris, en quelle année vous êtes arrivée?
63.
63, d'accord.
J'étais donc chez l'habitant. Oh, c'était formidable. J'étais chez l'habitant. C'était toujours un beau quartier au début, c'est marrant. Hein. C'est quelqu'un qui m'avait trouvé une chambre chez un couple de dentistes. Des gens très très bien. 142 rue de la Pompe. C'était très 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 bien. Ma chambre faisait 7 mètres carrés. J'avais droit quand même à la douche 10 minutes à telle heure le matin. À la cuisine, de telle heure le matin et le soir, très 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 peu. Le soir, moi je ne pouvais pas me payer le restaurant ni rien, donc je grignotais dans cette chambre. Je faisais donc bouillir de l'eau chaude. Tous les soirs, pendant 2 ans, j'ai mangé tous les soirs des biscottes margarinées avec de la ricorée au lait écrémé. Au bout de 2 ans, j'avais pris 25 kilos. J'avais perdu 2,5 millions de globules rouges parce que le lait dans la chicorée, dans le café, ça bouffe vos globules rouges. J'ai pissé le sang, j'ai vraiment failli crever. Et là, je suis allée la queue basse, comme on dirait, hein, chez papa-maman. Je suis restée un mois, je me suis acheté du foie de veau et un steak. Et je mangeais du foie de veau et un steak tous les jours pour me requinquer. Et après, je me suis dit, là, il faut perdre tes 25 kilos. Hein. Et là, ça a été tout un truc. Parce que moi, j'ai toujours été mollet de coq, hein. Toujours très, très menu, très... Et je vais voir un monsieur qui me dit, vous prenez quoi au petit déjeuner? Je dis, mais moi, je ne peux pas des petits déjeuners. Non, mais c'est pas ce que je vous demande. Vous prenez quoi au petit déjeuner? Mais le médecin se lève, il dit, votre consultation est terminée, d'ailleurs, je vous l'offre. Je lui dis, je pense que je vais m'asseoir. Je vais écouter ce qu'on allait me dire. Et il m'a dit, si vous voulez faire un régime, la première chose à faire, c'est de mettre votre organisme en brûlerie. Le seul repas qu'il faut faire, je vous le dis, c'est le petit déjeuner. Depuis, je ne pars jamais, je peux être en retard. Mais 4 tartines de beurre, puis pas un petit peu de beurre, hein, du beurre, et de la bonne confiture que fait mon fiancé, et une théière entière de thé qui refroidit. Voilà.
Qui est très bon, je reste.
Et au moment, je n'ai pas mis le couvercle, on est bête.
Merci.
Voilà, donc ça a été terrible.
Et ça a marché.
Ah, ça a marché, bien sûr. Ah non, le début à Paris, moi, ça a été terrible. La solitude a été terrible, 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 terrible. Je trouve que Paris nous déshumanise un petit peu. À Paris, moi, j'ai passé 5 ans à crever la dalle, ne voyant personne. Hein. Les week-ends, j'allais acheter un timbre-poste pour entendre le son de ma voix. Parce que je me suis dit, si tu parles toute seule le week-end, c'est le début de la folie. Vous connaissez personne, hein. C'est pas dans la banque vous connaissez des gens, hein. C'est pas... Alors après j'ai trouvé le système, j'allais dans les cafés-théâtres, parce que là on avait la soupe. Les cafés-théâtres de l'époque, on nous servait une soupe, donc ça, on passait une soirée, on passait 2 heures à voir des gens qui chantaient des chansons, qui disaient des poèmes, qui disaient des pièces de théâtre, et il y avait la soupe. Puis j'y allais pratiquement tous les samedis, donc le monsieur me connaissait, donc il me donnait une deuxième ration de soupe.
Et vous n'aviez aucun ami?
Non, je sortais pas, je pouvais pas sortir. Alors, j'ai, un moment, j'ai pris des cours d'histoire de l'art au Louvre. Quand même, j'avais payé. Mais j'étais déjà à la Banque de la Cité. Donc, c'était après 69, 70. Les cours finissent. Attends, mais les mecs sont prêts. Les mecs, les nanas sont prêts à vous passer dessus si vous n'êtes pas, pas relevé assez vite. Personne ne vous dit bonjour, jamais, quoi. Donc, à qui vous parlez? Après, j'ai eu un peu plus d'argent. J'allais dans les clubs de jazz. Et puis, voilà, quoi. C'est comme ça que j'ai rencontré des gens, mais ce n'est pas dans la boutique, je n'ai pas eu d'amant dans mes boîtes de travail. D'ailleurs, je disais à mes collaborateurs, écoutez, soyez gentils, hein. S'il vous plaît, voulez-vous tremper votre porte-plume ailleurs que dans l'encre de la société?
Et vous vous souvenez de 68 à Paris?
68 à Paris, j'étais dans une chambre de bonne chez l'habitant, avenue Kléber. Je me trouvais toute seule, la dame, ses enfants l'avaient fait emmener à la campagne. J'étais seule dans cet immense appartement de l'avenue Kléber. J'ai voulu aller acheter 1 kilo de farine pour faire des crêpes. Il n'y avait plus 1 kilo de farine dans les magasins du 16e. Alors j'espère vraiment que ces beaux bourgeois du 16e ont bouffé de la farine charançonnée pendant 6 mois. Ah, j'étais folle de rage, hein. De quoi crever la dalle. Pas les moyens d'aller dans un resto, hein. Ils avaient tous fait leurs réserves en cas de guerre totale. Alors c'était marrant parce qu'il n'y avait plus de téléphone. Donc moi, je ne pouvais plus joindre les parents, je ne pouvais pas les joindre. Il n'y avait plus d'essence, je n'ai donc pas pu récupérer ma valise. Et je ne suis pas partie en vacances, d'ailleurs. Et j'arrive au Crédit Chimique, c'était encore mai 68, c'était, je ne sais pas à quelle époque. Et voilà, tipa, qu'on m'empêche de rentrer à mon job, à mon boulot. Vous croyez ça à moi, qui n'ai jamais fait la grève de ma vie pendant 50 ans? Ah non, j'en venais pas. Et je n'ai pas pu rentrer le premier jour. Enfin, heureusement, tout le monde savait qu'il y avait des piquets de grève devant le Crédit Chimique. Moi, j'ai été... Ah non, moi, j'ai jamais fait une manifestation de ma vie. Parce que si vous n'êtes pas heureux chez quelqu'un, enfin, chez votre patron, ça ne sert à rien de râler, hein. La seule solution, c'est de partir. Je suis arrivée à la Banque de la Cité, donc j'ai gagné un peu plus d'argent, donc ça, c'était déjà pas mal, hein. Et là, j'ai pu me payer un petit studio à l'église d'Auteuil. Ha ha ! Mais oui. Où je faisais beaucoup de soirées, parce que j'étais une table basse, on était assis par terre, mais une table basse entourée de fer avec des petits carreaux dessus, donc c'est bien. Je faisais cuire sur un réchaud à gaz dans la salle de bain, enfin, je ne vous dis pas. Mais je faisais beaucoup, j'achetais un pot de rillettes, des patates à l'eau, et on mangeait ça, comme ça. Enfin, mais la Banque de la Cité, moi j'ai beaucoup aimé, parce que le boulot, on faisait tout aussi. Je suis arrivée avec un patron. Et qui râlait, qui m'a fait pleurer tout le temps. Parce que quand on est paysanne, on reste dans sa campagne. Puis il n'était jamais heureux, cet homme. Vous savez, il faut essayer de ne pas fréquenter les gens qui ne sont jamais heureux. C'est comme quand je disais à des collaborateurs, si un nouveau client, un prospect vient vous voir, il dit « j'ai pas de chance, j'ai pas de chance », il dit au bout de 3 fois, vous dites « écoutez, il faut quand même que je vous dise, je n'aime pas les gens qui n'ont pas de chance. Ah, » parce que ça éclabousse comme la merde, hein. Donc il faut faire très, très, très attention. Très Faites attention. Le patron n'était pas content, il dit « je vais donner ma démission, vous allez voir, ça va être terrible ». Puis le président arrive un jour et lui dit « eh bien, je vais vous donner ma démission, je m'en vais ». Et là, moi, j'étais sur le cul parce que le président dit « vous voulez partir quand, demain ?» Et là, ce président dit « il faut quelqu'un pour remplacer ». C'est une agence magnifique, énorme, on était deux, un patron et moi. Et le président dit « mais si on demandait à cette jeune femme de diriger cette agence ?» Donc, il m'a donc mis un collaborateur. Papa vivait encore. Je dis, papa, mais je vais jamais m'en sortir, être directeur d'une agence, à deux, directeur d'une agence, tu parles. Bref, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu risques? Tu crois que si ça ne va pas, tu ne vas pas trouver du boulot à côté, mais tu vas en trouver, hein. Donc, essaie. Eh bien, quand même, pour vous sachiez, que c'est grâce à ça que j'ai appris que j'étais une bonne patronne. Que je savais donner des ordres, que je n'avais fait que recevoir des ordres dans ma vie. Et là, moi, je vendais la banque à tout le monde. Ils rentraient changer, faire de la monnaie pour leur bagnole, j'aurais vendu un compte bancaire, quoi. Et puis à la Banque de la Cité, quand j'étais rue François 1er, dans cette petite agence, bah, au bout de 5 ans, on m'a demandé d'aller au siège, qui était avenue Matignon, donc il fallait traverser les Champs-Élysées. Et j'ai dit au patron, mais jamais ils traverseront les Champs-Élysées, hein, mes comédiens. Je suis allée à l'agence, ils sont tous arrivés. Tous. Et alors, le patron. Non mais Colette, vous avez vu comment ils étaient habillés? Parce qu'attention, à la Banque de la Cité, j'ai commencé en blouse verte, col rose, en blouse rose, col vert. On ne venait pas en pantalon. En 70, on ne venait pas en pantalon. Mais après, on s'est aperçu quand même que quand les clients croisaient Noiret, Piccoli, Balasco au guichet, qui disaient ça à leur compagne, leur mari, leur femme le soir, ça en jetait quand même. À propos de ça, moi, ce qui m'a sauvée, c'est que je me suis dit, tous les jours, ces gens ne me tiendront pas chaud quand je serai vieille, ce sont des clients. Ah, bien sûr, vous tombez dans les bras de Noiret, vous êtes dans le cachemire, vous êtes là, ils vous embrassent, c'est très agréable. Oui, mais c'est un client. Donc, je dînais jamais avec des clients, parce que j'étais une jeune femme. La banque, c'est la banque. La banque, c'est grossier ce que je vais dire, mais je prête l'argent à mes déposants. Si vous avez un compte bancaire, vous avez 1000 euros sur votre compte, vous êtes quand même... Vous ne posez même pas la question, mais vous imaginez comment vous les rendre, vos 1000 euros. Vous allez pouvoir les dépenser. Hein. Alors, ce n'est pas comme ça, parce qu'il y a des fonds propres, etc. Mais enfin, le principe, c'est ça. Donc, votre risque, c'est que ce soit comédien, pas comédien, client. Et ça m'a servi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que quand les gens disent « vous avez fait une belle carrière », ben justement, c'est parce que je n'y ai jamais pensé, moi, à ça. C'est-à-dire, je ne me suis jamais projeté en 69, qu'est-ce que je veux faire en 80, qu'est-ce que je veux être en 90. J'ai compris que j'étais une excellente professionnelle, là je peux le dire maintenant, quand j'ai quitté la Banque de la Cité au bout de 29 ans, que je suis allée chez OBC. Parce que là, effectivement, j'ai compris que là, à côté des autres, je connaissais la banque par cœur. Le boulot d'un banquier comme nous, c'est de mettre à disposition des producteurs la trésorerie de leurs films. Il faut avoir des couilles, hein, c'est pas... Un jour, je reçois une lettre en disant « Vous êtes promu au grade de chevalier dans l'ordre du mérite. » Je vois cette lettre. Je pense pas que c'est une blague parce que c'était le ministère de la Culture. Mais je me dis, ouais, c'est vraiment insensé ce truc, quoi. Puis je lis attentivement et je lis que pour avoir cette médaille, il fallait trouver quelqu'un pour la remettre qui ait un grade supérieur au chevalier, qui est le grade de base. Et donc je regarde dans mes clients, je trouve personne. Je dis, comment je vais faire? Puis je finis par appeler le ministère de la Culture en disant, écoutez, j'ai reçu votre lettre, je lis votre lettre, mais moi je ne connais personne qui peut me remettre cette médaille. Et la dame me dit, je comprends même pas ce que vous me parlez de quoi là. Ben, je dis, écoutez, je lis votre lettre qu'il faut quelqu'un qui ait une médaille supérieure, un grade supérieur à au-dessus de chevalier, je sais pas ce que c'est. Elle me dit, écoutez madame, c'est le ministre de la Culture qui vous promeut, donc c'est lui qui vous l'a remis. Et quand il me l'a remis, il y a une dame qui dit, j'ai d'autres personnes, on était quatre, je ne sais pas si je la mérite. Moi, alors j'aurais pu tout dire, sauf ça. Parce qu'il y a une putain de médaille que je mérite, vraiment, c'est bien celle-ci, c'est bien la médaille du mérite, hein, je vous le dis. Je n'aurais sûrement pas refusé la Légion d'honneur, je l'avais proposé, mais ce n'était pas justifié. Mais la médaille du mérite, ah oui. Moi j'ai embauché beaucoup de femmes, et c'est marrant parce que je suis poisson, j'ai embauché beaucoup de femmes poissons. Les hommes, je ne sais pas, mais les femmes poissons, qui étaient des femmes qui bossaient bien, très méticuleuses, je préfère travailler des femmes que des hommes, ils sont plus carrés. Les femmes sont pas restées dans la banque, mais moi ça m'a arrangé. À l'époque, c'était formidable d'être une femme parce que j'avais toutes les semaines je déjeunais sur un tournage. Vous arrivez, le producteur dit, je viens avec mon banquier. On ne féminisait rien. Tout le monde cherchait un mec. C'était une nana. Évidemment, tout le monde se souvenait de moi. Hein. Mais tout le monde. Le réal, le chef-op, tout le monde. Qui disait à un autre producteur, c'est comme ça que... Moi, j'allais sur les tournages toutes les semaines, parce que c'est ça le bouche à oreille qui marche, quoi. Alors, souvent des rapports de séduction, mais comme je dînais pas, Moi, j'ai toujours dit non, il m'est arrivé deux histoires qui sont immédiatement arrêtées. Hein. Un jour, il y a un musicien de cinéma très connu qui me dit, je voudrais que vous veniez. On était avenue Matignon, et était rue de Ponthieu, donc j'y vais. Mais je me lève, c'est une table ovale, je me lève, aussitôt levé, il est sur mon cul. Je dis, bon, je me mets à faire le tour de la table. J'y vais, tu ne vas pas faire le tour de la table quatre fois. Donc je fais cinq pas, je me retourne immédiatement. Quand vous êtes là, vous courez, vous retournez. Le mec est sur vos seins, là. Vous regardez sa braquette et vous lui dites, et on fait quoi, monsieur, maintenant? Bonsoir, monsieur. Ah ben, il a débordé en 5 secondes. Hein. Une autre fois, au restaurant, à un angle. Quelqu'un qui m'a invité au restaurant à un angle. Et le mec, j'avais des jupes à l'époque, j'avais 40 ans, j'avais des jupes. Il met la main sur le genou, ça monte à la petite culotte. Et je lui dis, j'appelle de son nom, comme ça. Monsieur Gervais, dans le restaurant où tout le monde me connaissait. Hein. Monsieur Gervais, vous devriez arrêter immédiatement. Ah ben, il lui a demandé aussi en 2 minutes. Hein. En même pas, en 2 secondes. Ben oui, évidemment. Une autre anecdote, quand je rentre à la banque OBC, arrive la question fatale, alors mon petit, vous avez fait quoi comme études, etc. Ça, c'était un truc, moi, je m'étais dit, j'aurais dû m'inventer un CV. C'est-à-dire, j'aurais pu dire, j'avais passé mon bac à Sainte-Marie de Chavagne, qu'est-ce qu'il aurait su? Rien. Faire 2 années de fac à Angoulême, qui aurait su ça? Rien. Ben donc, je me lance et je lui dis, ben non, j'ai aucun diplôme. Bon, oui, école à 14 ans, BEPC. Et déjà, BEPC, c'était bien d'avoir à 14 ans le BEPC. Et il me dit, mais c'est pas grave, mon petit, j'écoutais là, vous voyez, votre réponse, monsieur Propert, ne me plaît pas du tout. Parce que j'ai appris, et je sais, que toutes les personnes qui vous disent, ça n'a pas d'importance, sont elles-mêmes bardées de diplômes. Parce que si vous n'aviez pas de diplôme, vous ne dites pas ça. Ça n'a pas d'importance. Parce que ça a de l'importance, beaucoup d'importance. J'ai travaillé 2 fois plus, quoi. J'ai dû jouer à l'éponge, j'ai dû écouter les gens, jouer à l'éponge, m'imprégner. Et moi, je fais 2 fois plus d'efforts pour un compte rendu. Mais tout le temps, c'est comme ça. Bien sûr. Quand vous n'avez pas fait d'études, vous travaillez 2 fois plus. Alors après, vous rattrapez, mais quand même. Tous ces jeunes qui ont fait des études, on leur a appris quand même des choses. On ne leur a pas appris beaucoup à s'exprimer bien au téléphone, mais on leur a appris à avoir une petite synthèse. Ça doit durer 5 minutes, on ne raconte pas sa vie au téléphone. Si vous devez raconter votre vie, vous allez au rendez-vous. Vous demandez au mec de venir en rendez-vous. Ah, mais moi j'étais une patronne dure. Alors, la religion, je suis un peu triste depuis Paris. Je vois des gens se promener avec des buis. Je dis merde, qu'est-ce qu'ils font? Ah merde, c'est des rameaux. Je suis devenue totalement. Si je crois, bien sûr, quelque chose, mais on ne pratique plus du tout. Bon, c'est vrai que bon, la religion ne m'a pas beaucoup intéressée. On allait à la messe tous les dimanches avec maman et papa. Papa allait à la messe. Hein. Parce qu'il fallait. Hein. Mais quand on était jeune, on chantait la messe de Noël, on faisait la messe de Noël, on venait dîner après Noël. Enfin, c'était tout un truc. Plus jamais la messe de Noël. Et là, je viens d'aller à l'enterrement. C'était des chrétiens, catholiques, pratiquants. Je suis revenue en disant... Ma petite Gervais, il faut que tu revoies les choses parce que cette messe d'enterrement n'était pas du tout plombante. Je ne dis pas joyeuse, hein, ce n'est pas ça. Mais je me suis dit, voilà, je pense que d'être dans une religion, quelle qu'elle soit, hein, si vous êtes musulman, ça va être pareil, si vous êtes juif, c'est pareil, si vous êtes protestant, c'est pareil. Mais je me suis vraiment posé la question en disant, mais je ne savais même plus chanter rien du tout dans cette messe, qui est maintenant en français. Vous voyez, ça fait 40 ans que je ne veux plus la messe. Vous dites, mais je me suis dit, Gervais, t'as tort, tu devrais être plus à l'écoute.
Gervais, tu as tort. Cette phrase, au milieu de notre discussion, nous touche. Colette a l'air si sûre d'elle lorsqu'elle évoque sa carrière, sa force nous intimide presque. Alors, quand elle baisse la garde, on entrevoit à nouveau la fille de la campagne qui joue avec son frère dans les champs. Notre discussion continue et prend un tournant plus intime.
On n'avait pas de tampons, hein.
Vous faisiez comment?
Ben, des serviettes, on l'avait, une bassine d'eau froide, on faisait tout ça tout seul, hein. Bien sûr.
Et votre mère, elle vous en avait parlé de vos règles?
Ah, jamais. Non, vous plaisantez, mais c'est ma sœur qui m'a dit 3 trucs, nous, on a tout appris les copines. Non. Non, mais mes parents, non. Non, ça, jamais. On n'a jamais parlé de rien du tout, d'ailleurs.
Et de sexualité?
Non, jamais. Jamais. Je ne sais même pas comment on s'est éduqué, d'ailleurs.
Et comment, alors, comment vous avez appris?
Ah ben moi j'ai eu un premier homme qui était beaucoup plus âgé que moi, il était grand, il était bon, il se sentait bon le sable chaud, il faisait des moniteurs de voile, c'était un homme d'une grande douceur, qui avait 20 ans de plus que moi, et voilà. Ah j'avais déjà 23 ans, et après on apprend tous les jours. Tous les jours.
Et quand il n'y avait pas la pilule, donc à 23 ans, vous n'aviez pas la pilule?
Ah non, ben là, on faisait ça très très rarement, compliqué... Puis aller acheter des préservatifs dans une pharmacie, de rigoler, vous savez, on n'avait pas les distributeurs. Ah non, tout était très compliqué. Hein. Imaginez que je tombe enceinte, papa, maman. Maman aurait peut-être rien dit, papa. M'arracher les yeux. Enfin, alors, chez les yeux, j'exagère. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'était... Non, c'était... Non, quand on a été libéré de la pilule, ça a été extraordinaire. Moi, j'ai eu 15 années de ma vie. Non. Ah oui. Bien. Bien. Très, très bien. Bah, la liberté. Parce qu'il n'y avait pas le sida à l'époque. Hein. Donc, on a eu 15 années, nous, qui étaient entre le début de la pilule et... Ah oui, non, c'était formidable. Et moi, j'avais déjà... La pilule est arrivée, j'avais déjà 26, 27 ans. Hein. Quand on voit l'histoire, où les femmes étaient là comme ça, mais comment elles faisaient, quoi? Parce qu'on a l'impression quand même qu'elles se laissaient trousser, on se demande si les mecs se retenaient ou se retenaient pas. Hein. Non, je sais pas comment on fait, quoi.
Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez été ménopausée?
Non, parce que j'avais une gynécologue à l'époque qui continuait à me donner des petites hormones. Jusqu'au jour où cette dame est morte d'un cancer du sein. Mais je me suis torturée, mais vous faites chaleur, parce qu'à l'époque, la nouvelle gynéco que j'avais m'a dit les hormones, non, on ne sait pas, c'est épouvantable, c'est terrible, les hormones américaines sont gagnantes, les anglaises sont mieux, mais les françaises ne sont pas bonnes. Ben, je veux dire, on va tout oublier. Alors on prend des petites choses contre les bouffées de chaleur, puis on se torture ces bouffées de chaleur, puis c'est tout. Moi, je garantis qu'actuellement, je le dis aux gens qui sont les plus jeunes, les hormones sont maintenant extrêmement bien dosées. Je pense que c'est beaucoup mieux de prendre des hormones maintenant. C'est un choix que j'ai fait grâce ou à cause d'une gynécologue hein, qui m'a dit que on n'est pas du tout certaine de ces hormones. Moi-même, je n'en prends pas. Donc, bon, voilà, que vous vous dites, ben, on n'en prend pas, quoi. C'est drôle, personne n'en parle. Bon, il peut m'en parler, hein, oui, en tant que c'est fait. Hein. Non, c'est vrai que les femmes n'en parlent pas. Les femmes n'en parlent pas. On parle des premières règles, mais les femmes ne parlent pas de ça. J'ai jamais eu d'homme à Paris. J'ai beaucoup d'amants, mais j'ai jamais eu d'homme. J'ai compris que les amants que j'avais étaient des gens extrêmement intéressants, qui étaient aussi souvent mariés, qui me donnaient pas beaucoup de choses, en tout cas pas les week-ends, ou rarement. Mais dans la vie, il faut savoir si on veut des gens qui vous font monter, parce qu'ils sont brillants, qui vous engueulent pas, parce que vous savez pas lu ça, parce que... Vous savez, moi, j'ai connu des tas de gens qui disaient « Comment t'as pas lu ça? Mais t'es conne ou quoi ?» Écoute, tu dois être conne parce que j'ai pas lu, effectivement, ça. Voilà. Non, moi, j'en ai pleuré, hein, de choses comme ça. Ben, à un moment, il faut... Tout ce que vous n'avez pas fait avant 18 ans, vous ne le ferez pas après. Hein. Vous n'avez pas le temps parce que tous les jours, il y a un truc nouveau à faire. Donc, moi, l'art, je l'ai appris au fur et à mesure. Hein. Quand j'ai acheté ce beau geste-là, c'était 2 mois et demi de salaire. Donc, vous vous rendez compte des économies que j'ai faites pour acheter ce tableau. Je voulais, quoi. 2 ou 3 ans après la mondialité, je m'étais fait un petit noyau. Donc, voilà, on avait... Plutôt des filles que des garçons d'ailleurs, vous rencontrez dans les boîtes de nuit, beaucoup des boîtes de jazz, le Blue Note, vous n'avez pas connu ces boîtes, qui étaient des très bonnes boîtes de nuit, où on dansait le bop, tout ça, c'était très 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 bien. On dansait, on écoutait, on dansait, si on avait un très beau garçon qui vous invitait à danser, on bichait.
On
bichait, c'est bichait, ça veut dire on était très, très joyeux, on se dit ah.
Donc c'était oui. Des lieux de rencontre.
Oui, c'était des lieux de rencontre. Oui, on avait les mêmes affinités. Hein. Donc voilà, c'était pas des boîtes où on allait draguer. Il y avait un but. On allait à la Huchette, on allait voilà des trucs comme ça quoi. Voilà, mais on draguait quand même. Hein. Faut pas non plus exagérer quoi.
C'était pas une trop grosse pression de pas être mariée.
Non. Ça, c'est les parents quand on téléphonait. Alors tu te maries pas? Non.
Vous n'avez jamais eu envie de vous marier?
Bah, j'ai pas trouvé l'homme de ma vie. Non, vraiment. Non. J'ai pas trouvé l'homme avec qui j'aurais voulu faire des enfants. Je n'ai pas trouvé l'homme. Bah, mon fiancé, aujourd'hui, j'aurais peut-être fait des enfants. Heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que je trouve que maintenant, ça ne me manque pas du tout. Et puis, moi, je ne sais pas, je crois que j'aurais été une maman difficile. Hein, Et puis qu'est-ce que j'aurais fait d'un enfant à Paris, dans une chambre de bonne, un petit studio, vous dites, ben c'est... Voilà, il fallait, moi, ma vie, ça aurait été de pouvoir choisir un homme et de se dire, je fais une famille, dans les règles de l'art. Donc, comme ça, ben, quand vous n'avez pas choisi d'homme, que vous avez déjà 35 ans, vous continuez à vivre comme ça. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé, attention. Hein. À partir de 80, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un peut travailler autant que j'ai travaillé. Aucun de mes amants était des clients. Hein. Je ne dis pas que c'était pas dans le domaine. Aucun client.
Et vos amants, vous étiez amoureuse de vos amants?
Bah écoutez, oui, il y en a un qui j'ai dit que je voudrais vraiment te voir plus souvent. Je t'ai déjà expliqué que si ce rythme-là ne te convient pas, bah écoute, on va se quitter. Et vous dites, Gervais, prends le bon, hein, puis c'est tout. Il y en a plusieurs que je revois, je connais leur épouse. Hein. Moi, j'ai été toujours très très soft, hein. J'ai connu des femmes qui démolissaient des couples. Enfin, vous savez très très bien si oui ou non... Il n'y a aucune raison qu'un homme divorce pour vous, parce que toute sa vie, il va faire que ça, et vous aussi. Hein. Mais moi, je vous dis, beaucoup, beaucoup d'amants que j'ai eus, je savais très, très bien qu'ils ne m'auraient jamais épousée.
Mais vous, il n'y a jamais aucun homme pour lequel vous vous êtes dit, lui, j'ai envie de me marier avec lui.
Si, il s'appelait Jean-Pierre Léo. Voilà, c'était très, très triste, oui. Mais bon, il a épousé une Américaine, vous voyez. C'était pas un Gervais, il a épousé une Américaine.
Mais vous lui avez dit que vous voulez l'épouser?
Bah oui, bien sûr. Et je me souviens aussi, un jour, je lui dis, tu peux venir me chercher à l'école du Louvre. Et il vient me chercher, il me ramène à la maison, sans monter. Il me dit que tu m'as demandé d'aller te chercher. Alors, je sais ce que j'ai fait, je suis allée te chercher à la sortie de l'école. Voilà, je rentre. C'est très, très, un peu pervers, un peu... Après des histoires comme ça... Voilà, je suis allée un jour à Honfleur, j'ai attendu 2 heures pour remonter à Paris, je croyais qu'il m'avait oublié. Parce que Honfleur était l'endroit où j'allais dans un hôtel, l'hôtel du Cheval Blanc, seul, pour réfléchir. Quand j'ai pris la direction de petite agence, on était deux, j'allais réfléchir une nuit, enfin, je suis arrivée un samedi soir et je suis rentrée le lendemain. Et puis l'autre, je suis allée 2 fois pour des grandes questions d'existence, quoi. Et la deuxième fois, j'étais avec ce Jean-Pierre qui était magnifique. Mais voilà, trop. Puis c'est une grande famille bourgeoise. Mais non, à un moment, vous comprenez bien que ça ne peut pas marcher, quoi. Que vous n'iriez jamais voir ses parents, qu'il n'irait jamais voir les miens, que voilà. Il faut savoir où on est dans la vie. Puis après, ben, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Moi, j'ai pleurniché comme tout le monde. Hein. On croit toujours qu'on va jamais s'en remettre. Et quand vous dites à une jeune, mais de toute façon, dans 6 mois, vous allez rire de ça. Oui. On peut pas, sur le moment, on dit on va suicider, quoi. Moi, j'ai appris à skier comme ça. La Seine ou le métro. Non, mais Gervais, va faire du ski. Toi, à 30 ans, tu sais pas skier. Va faire du ski. Voilà. J'ai appris à skier. Je me souviens, j'avais une veste avec des grandes manches. Mon bâton se prenait toujours dans les manches. Parce que moi, j'avais pas d'équipement. De quoi m'acheter l'équipement? Mais non.
Et pourquoi vous êtes allé skier?
Parce que j'avais un chagrin d'amour effroyable. Alors, j'avais plus que la Seine ou le métro, quoi. Tellement je pleurais, tellement c'était épouvantable. J'ai dit, mais fais autre chose. Tu sais pas skier, va te jeter sur les pistes. C'est comme ça que j'ai trouvé une semaine de vacances pour aller me jeter sur les pistes. C'est un gros chagrin d'amour, c'était épouvantable. Pas vivre sans lui. Puis après, 3 mois après, vous rigolez, quoi.
Et là, du coup, vous allez vous marier?
Non.
Ah non, vous êtes juste fiancée.
Depuis 30... Alors, il faut que je fasse attention parce que, je sais pas si moi, j'ai dit, j'ai un fiancé de 30 ans. Alors là... Non, elle est folle cette fille. Non, depuis 30 ans. Non.
Ça fait 30 ans que vous avez le même fiancé?
Oui. Mais non, je ne me marierai pas. Moi, j'ai pas d'enfant, il a des enfants, je... Non, non.
Et avec votre fiancé, c'était le grand amour?
Ah oui, oui. Ah oui, mais j'avais des amants à l'époque, j'ai dit, écoutez, là maintenant, plus jamais le soir. Hein. Je vous verrai qu'à déjeuner. Et moi, je ne fais pas zimboum-pampan entre deux rendez-vous à déjeuner. Hein. Ça n'existe pas pour moi. Quelqu'un très connu qui me disait, Colette, je te trouve ce soir, parce que c'est après une fête de fin de film. Et je lui dis, êtes-vous libre le week-end prochain? Ça lui a pu donner envie de me voir pour raconter le lendemain, je me suis fait la banquière. Hein. Alors ça, niette. Ça, niette. Ah bah oui, non mais attends. Dans la vie, il faut être... Si vous leur demandez s'ils sont libres le week-end, ils sont très emmerdés. Hein, parce que c'est juste un petit coup rapide, là. Non, Gervais, non. Non, il faut avoir un peu de temps pour moi quand même. Un peu de temps.
Cette rencontre avec Colette est un moment précieux. À 78 ans, elle nous a impressionnés. Forte, intrépide, courageuse et persévérante, elle nous rappelle que tout est possible, même lorsque l'on a grandi à la ferme. Avec elle, nous avons pris conscience que la vie n'est jamais facile, que tout est question de sacrifice et parfois d'acharnement. Merci Colette pour cette leçon, on s'en souviendra.
Moi, je me suis beaucoup amusée. J'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup amusée.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux à @mamiepodcast et par email à bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.